الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le repentir de Malik ibn Dinar, rapporté par Ibn Qudama rahimahullah dans Rawda al-Nazir wa Jannat al-Manazir fi Usul al-Fiqh. Quelques dizaines d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la troisième génération de l'islam, vivait parmi les musulmans un homme nommé Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar était un jeune soldat qui aimait les plaisirs, négligeant ainsi de nourrir son cœur, malgré le fait qu'il était musulman. Erreur de jeunesse ou péché assumé, il n'empêche que notre homme buvait de l'alcool, comme d'autres boivent de l'eau. Il aimait tant cela qu'il finissait souvent ivre à cuver son vin dans les ruelles de la cité. Outre ce penchant pour l'alcool, c'était un homme peu sérieux. Les gens ne l'appréciaient pas vraiment et rares étaient ses amis. Pourtant, de temps à autre, il lui arrivait d'avoir des moments de lucidité qui rendaient notre homme presque sympathique. Un jour, au marché, alors qu'il déambulait parmi les étals, il aperçut un homme de très grande taille et larges épaules. Il avait l'air d'être puissant et riche. Il portait au doigt une bague imposante et sur la tête, un long turban. Il émanait de sa personne un parfum très raffiné. Tout chez lui montrait l'opulence et la distinction, tout sauf son attitude, car l'homme était hors de lui. Il criait et proférait injures et insultes, alors que son visage semblait prêt à exploser tant il était rouge jusqu'aux oreilles. Voyant cette scène intrigante, Malik s'approcha et vit que cet homme s'acharnait sur un pauvre vieillard vêtu de haillons. Ce dernier avait les mains fissurées par le labeur, son visage était fatigué et des larmes coulaient de ses yeux. Il était là, à genoux, en train de supplier le riche de lui rendre ses 7 dinars en disant « Je te supplie de me les rendre, je n'ai rien d'autre que ces quelques pièces. Si tu me les prends, je ne pourrai pas nourrir mes fils aujourd'hui. Ne sois pas injuste, je t'en supplie. » Mais le riche n'avait que faire de ses supplications. Il le repoussa avec dédain, fermement décidé à garder cet argent. Même s'il n'était pas un modèle de vertu, Malik ibn Dinar n'aimait pas l'injustice. Cette situation le choqua, si bien qu'il osa s'interposer, il demanda au riche. « Qu'as-tu donc avec cet homme ? Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. » répondit sèchement l'orgueilleux. « C'est une affaire entre lui et moi. Cet homme me doit 7 dinars depuis des années, et à chaque fois que je les lui demande, il les reporte à plus tard. Mais maintenant que je l'ai attrapé et que j'ai pu lui arracher cette dette, il est hors de question que je le laisse en tirer. » Malik ibn Dinar ne comprit pas sa réaction, il osa dire « Mais toi tu es riche, Allah t'a comblé de ses bienfaits. Tu pourrais faire faveur de cette somme à ce pauvre homme qui semble en avoir plus besoin que toi. » Mais le riche, plein d'ostentation, refusa, méprisant le pauvre homme ainsi que les conseils de Malik ibn Dinar. Ce dernier ne le supporta pas. Alors, totalement indigné par son manque de savoir-vivre, il mit une gifle si forte au riche que ce dernier vacilla. Malik en profita pour dérober les 7 dinars de sa main et les donna au pauvre homme qui partit en courant. Avant qu'il ne soit trop loin, Malik ibn Dinar lui dit « Ce soir, quand tes fils se mettront à table pour manger le repas que tu auras pu leur offrir grâce à cet argent, demande-leur d'invoquer Allah en faveur de Malik ibn Dinar. » L'homme le promit de loin et détala à toute vitesse. Après quelques temps, Allah mit dans le cœur de Malik l'envie du mariage. Il sentit qu'il avait besoin de se stabiliser et de se construire un foyer. Alors, il commença à aller voir les hommes de la cité pour tenter de demander la main de leur fille, mais personne ne voulait donner sa fille en mariage à un homme tel que lui, alcoolique et si peu sérieux. Malik ibn Dinar s'en attrista beaucoup, jusqu'au jour où il pensa à une esclave qu'il avait achetée il y a peu. Il se l'avouait, il la trouvait très belle. Elle était aussi pieuse et éduquée. Elle ferait une bonne épouse, il alla donc la demander en mariage et celle-ci accepta. Tous deux se marièrent et quelques temps après, ils eurent une fille, Fatima. Dès qu'elle vint au monde, Malik ibn Dinar éprouva pour cette petite créature un amour profond. Il la chérissait et il fut pour elle un père aimant et attentionné. Et elle le lui rendait bien, à travers des sourires, son regard qui semblait sonder son âme et ses petits rires. Plus elle grandissait, plus Malik la chérissait. La petite fille le suivait partout et refusait de rester un instant sans son père. Mais ce bonheur et cet équilibre enfin trouvé n'empêchaient pas notre homme de continuer à boire de temps à autre, malgré le fait qu'il s'était amendé et qu'il priait de façon régulière, tentant de faire le bien autant qu'il pouvait. L'innocente enfant avait pour sa part une bien étrange habitude. Dès qu'elle voyait une coupe de vin dans la main de son père, elle s'en emparait et la renversait sur ses vêtements. Mais Malik l'aimait tant qu'il n'osait la réprimander pour cela. Au fil des années, il délaissa jusqu'à l'alcool et chemina véritablement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son épouse était comblée et la petite fille jouissait d'un foyer plein d'amour et d'équilibre. Un jour, alors que Malik ibn Dinar était en train de jouer avec elle à la maison, la petite Fatima tomba sans vie sur le sol. Paniqué, Malik se jeta sur elle et la prit dans ses bras. Il tenta de la ranimer en lui tapotant les joues, en criant son nom, en vain. Alerté par les cris, son épouse arriva, paniqué, voyant le corps sans vie de sa petite fille gisant dans les bras de son père. Fatima était morte. Comment la vie allait être possible désormais? L'épreuve était insupportable. Malik avait le cœur brisé et la douleur était trop vive. Il sombra dans une profonde dépression. Tout lui rappelait sa fille. Chaque endroit, chaque objet, tout le ramenait à elle. Quand il prenait le Coran pour le lire et le méditer, il se souvenait de la façon dont Fatima le prenait pour faire mine de le lire avec son petit air sérieux. Quand il posait son tapis pour prier, il se rappelait comment elle grimpait sur lui alors qu'il était en prosternation et ses petits rires pour lui faire perdre sa concentration. Comment continuer à faire toutes ces choses qui lui rappelaient tant Fatima? Alors, Malik préféra se détourner. Il délaissa la lecture du Coran et la prière dans sa demeure. Ce fut plus rare. Il finit même jusqu'à cesser de s'alimenter, obsédé par le souvenir de sa chère enfant. Mais le pire était les nuits qui lui semblaient interminables. Une véritable torture du temps et de la souffrance alliés l'un à l'autre contre notre âme. Un soir, peu avant le Ramadan, un soir où la tristesse était trop forte et où il sombrait dans le désespoir, il décida d'en finir. Il alla acheter des dizaines et des dizaines de bouteilles de vin, décidé à boire jusqu'à en mourir, car il en était désormais convaincu, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Alors, il ouvrit une bouteille et prit une première gorgée de ce liquide qui lui était autrefois si familier. Le goût restait le même, c'était celui de l'amertume. Puis, il prit une autre gorgée, suivie d'une autre, si bien qu'il finit rapidement la bouteille. Il but la seconde, presque d'un trait. La vieille habitude redevenait maîtresse de notre homme, qui peu à peu sombra dans l'ivresse, sans que la douleur le quitte pour autant. Alors, il continua à boire et à boire encore, jusqu'à perdre connaissance. Il finit par tomber inanimé, face contre terre, sans avoir fait ses prières du soir. C'est alors qu'il fut le plus effrayant des rêves. Mais découvrons-le tel qui nous l'a raconté. Il dit « Je fis un rêve dans lequel était arrivé le jour du jugement. Je regardais tout autour de moi, ne sachant pas d'où je venais, et je vis à ma droite et à ma gauche les gens sortir de leur tombe. Saisis par la peur, hommes, femmes et enfants couraient dans tous les sens. J'étais totalement pétrifié par cette scène de terreur. Alors, saisi par la peur, je me mis à courir aussi, jusqu'au moment où je sentis un souffle chaud derrière moi, accompagné d'un bruit étrange. Je me retournai et je vis un serpent monstrueux qui se dirigeait droit sur moi. Seigneur, c'était la vision la plus effrayante qui soit. Ses yeux verts étaient ceux d'un félin. Sa gueule était grande ouverte et il se ruait vers moi avec furie. Terrifié, je me sauvai à toute allure. Alors que l'horrible serpent était à mes talons, dans ma course effrénée, je rencontrai un vieil homme. Il était tellement beau. Il portait les plus beaux habits qui soient et il était si délicatement parfumé. Je le saluai et il me rendit l'appareil. Je le suppliai alors. « Vieil homme, je t'en supplie, viens-moi en aide. Je suis trop faible pour pouvoir t'aider contre un tel monstre, » répondit-il. C'est bien au-delà de mes pouvoirs. Continue à fuir. Il se peut que tu trouves plus loin quelque chose qui te sauvera. Alors, Je continuais à courir comme un fou, espérant échapper au serpent. C'est alors que j'arrivai au pied d'une montagne. Sans réfléchir, je me suis mis à l'escalader. Mais, arrivé au sommet, je vis, en contrebas, le feu furieux de l'enfer, avec les plus horribles scènes qui m'aient jamais été données de voir. Les gens brûlaient et criaient. C'était une vision insoutenable. Puis, le serpent revint dans mon champ de vision. Alors je me remis à courir, à toutes jambes, jusqu'à presque me jeter dans le brasier. C'est à ce moment que j'entendis une voix me dire « Retourne d'où tu viens, car tu n'es pas de ceux qui sont destinés à l'enfer. » Alors je fis demi-tour. Le serpent, toujours à mes trousses, je revis le vieil homme aux vêtements raffinés et aux parfums délicats et le supplie encore. « Vieil homme, je t'en supplie, ne peux-tu vraiment rien faire pour moi ? Ne peux-tu pas me sauver de ce serpent ? Je te le redemande, aide-moi. » L'homme se mit à pleurer, visiblement triste de ne rien pouvoir faire pour moi, et dit « Je suis trop faible pour t'aider contre un tel serpent, mais je peux te dire que tu trouveras un peu plus loin une colline où sont gardés les dépôts sacrés des musulmans. Escalade là, peut-être y trouveras-tu un dépôt t'appartenant qui pourra te sauver de son monstre. » Je me précipitai vers la colline, parfaitement arrondie, comptant plusieurs fenêtres ornées de rideaux. Chaque fenêtre avait deux volets en or, incrustés de rubis et de pierres précieuses et drapés de soie. Au moment où je m'apprêtais à escalader cette colline, les anges annoncèrent d'une voix forte. « Ouvrez les fenêtres, relevez les rideaux et sortez de vos alcôves. Il y a ici un malheureux homme en détresse. Peut-être parmi vous y a-t-il un dépôt lui appartenant qui pourrait l'aider dans son infortune. » Aussitôt, les volets s'ouvrirent. Les rideaux se soulevèrent et je vis un nombre considérable d'enfants sortir de tous les côtés. Ils étaient si beaux et si rayonnants, tels des étoiles dans le ciel. Je ne savais plus si je devais paniquer pour le serpent qui s'approchait ou rester là, saisi d'admiration face à cette foule d'enfants si purs et si beaux. Ils riaient, jouaient et parlaient dans tous les sens. C'était une vision magnifique. Puis certains d'entre eux appelèrent les derniers enfants, restez dans la maison. Dépêchez-vous, dirent-ils, car le serpent approche. Les enfants sortirent en masse, quand soudain, parmi tous ces visages radieux, j'entreaperçus celui qui m'avait tant manqué. Ma fille Fatima était là, devant moi. Elle me reconnut aussitôt et elle se mit à crier. Par Allah, c'est mon papa! C'est mon cher papa! Elle sauta sur un berceau qui semblait fait de lumière céleste et se précipita à ma rencontre. En une seconde, elle fut près de moi. Je la pris dans mes bras, fou de bonheur, en la serrant très fort. Elle me caressa le visage de sa main gauche. Puis, quand elle aperçut le serpent, elle leva sa main droite et aussitôt, celui-ci prit la fuite. Alors, elle me regarda à nouveau. Elle me fit asseoir et sauta sur mes genoux. L'instant était irréel. Elle se mit à caresser ma barbe de sa petite main, comme elle le faisait de son vivant, et me dit « Mon cher papa, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. À ces mots, je me mis à pleurer. Ma fille maîtrisait le Coran et sa signification alors qu'il m'était inconnu, à moi qui étais son père. Je lui demandais « Oh ma petite fille, est-ce que vous tous comprenez le sens et la signification du Coran ?»« Nous le comprenons mieux que vous, » répliqua-t-elle. Je compris qu'elle avait des connaissances que je n'avais pas. Alors, je lui demandai. « Qui était cet énorme serpent ?»« C'étaient tes mauvaises actions. Elles sont si nombreuses, mon cher papa, qu'elles ont rendu le serpent puissant au point qu'il a bien failli te pousser en enfer. »« Et qui était le vieil homme élégant et parfumé ?»« C'étaient tes bonnes actions. Elles sont si faibles, cher père, qu'elles n'ont pas réussi à t'aider contre le serpent de tes mauvaises actions. C'est à peine si elles ont été capables de t'indiquer la voie de la délivrance. » Tout cela devenait tellement clair maintenant, je lui demandais. « Dis-moi encore, ma fille chérie, que faites-vous, toi et tous ces enfants, ici, sur cette colline ? Nous sommes les enfants des musulmans morts en bas âge. Nous resterons ici jusqu'au jour de la résurrection, à attendre la venue de nos parents. Et lorsque nous serons tous réunis ici, alors, nous intercéderons auprès de notre Seigneur pour nos parents. » Puis, Elle posa sur moi un regard profond, comme elle savait bien le faire pour capter mon attention, et elle me dit « Mon cher papa, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. Elle répéta ce verset encore et encore, comme si elle voulait l'imprimer au fond de mon âme. Et ces mots résonnèrent en moi le reste de la nuit. Puis, je me réveillais soudainement, sentant encore la chaleur de ma fille sur mes genoux et encore saisi de la peur de ce grand serpent. J'entendis le muezzin appeler à la prière de Subh. Alors, je fis mes ablutions et me rendis à la mosquée. L'imam de la mosquée n'était autre que l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Je me plaçai derrière lui, le cœur encore tout tremblant de mes émotions de la nuit. J'écoutais néanmoins attentivement sa récitation. Il termina la Fatiha et nous dîmes un Amin appuyé et implorant. Puis, quelle ne fut pas ma stupeur quand j'entendis l'imam al-Shafi'i rahimahullah commencer sa récitation par le verset que ma fille m'avait répété durant la nuit. Sans pouvoir me contrôler davantage, j'éclatai en sanglots au cœur de la mosquée, tant j'étais convaincu que ce verset ne s'adressait qu'à moi. À la fin de la prière, l'imam al-Shafi'i avait pour l'habitude de toujours faire une petite exhortation. Il expliqua alors que ce verset avait été révélé 4 années après l'Hégire. Allah avait dit, à travers son messager, comment l'adorer comme il se doit. La voie était toute tracée. Après l'Hégire, les révélations et les nombreuses épreuves, ce verset sonnait donc comme un reproche. Le cœur n'est-il pas venu que vos cœurs s'humilient? Allez-vous perdurer ainsi dans vos péchés, dans votre négligence et votre insouciance? Allez-vous continuer à vivre comme si vous n'allez jamais mourir? Alors, je me mis à pleurer de plus belle, ne cessant de dire, « Je me repens toi, Seigneur, je me repens. » Tels étaient les mots de Malik ibn Dinar. C'était jusqu'alors un homme alcoolique et grossier. En une nuit, son cœur s'emplit de regrets et de repentir. Après la prière, il alla voir son épouse pour lui dire, « Allah a mis en mon cœur l'amour de la connaissance et du savoir. » Laissons cette vie et partons à Médine, dans la cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Heureuse de cette décision, son épouse accepta aussitôt. Ils partirent à Médine et s'y installèrent. Malik ibn Dinar y apprit la science des années durant. Il devint un des plus grands imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des plus grands savants qui ait jamais vécu. Qu'Allah le prenne dans sa miséricorde. Voici la fin de cette belle histoire, à qui j'espère nous profitera à tous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.